Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vivante Église. Aujourd'hui, on va parler du diaconat permanent et du diaconat en vue du presbytérat. Le ministère des diacres existe depuis les premiers temps de l'Église. L'apôtre Saint Paul, dans sa première lettre à Timothée, donne déjà des critères de discernement des diacres. Le Concile Vatican II, en 1963, a rétabli le diaconat en tant que ministère et exercice de manière permanente. Dans ce plateau de Vivante Église, c'est un cadeau qu'on vous offre, chers auditeurs. Vous allez découvrir, au cours de cette émission, trois nouveaux diacres qui ont été ordonnés en cette année jubilaire 2025. C'était à la cathédrale Saint-Étienne le 5 janvier dernier. Monseigneur de Kerimel présidait cette messe. Je reçois autour de cette table et dans cette émission ces trois nouveaux diacres. À mes côtés, Éric Carboni, nouveau diacre permanent pour le diocèse de Toulouse, qui est chargé de l'accompagnement des prêtres sur les questions administratives et de santé depuis début février. Et également conseiller spirituel du mouvement Fraternité des personnes malades et handicapées au service de l'ensemble paroissial d'Aucamville. Et on vous retrouve dans quelques minutes, Éric. Jean-Baptiste Oneda, vous êtes ce nouveau diacre en vue du presbytérat pour le diocèse de Toulouse, tout en continuant votre année de synthèse vocationnelle. Vous êtes nommé au service de l'ensemble paroissial de la cathédrale Saint-Étienne à Toulouse. Et puis, Irénée Romanoff, également nouveau diacre pour le diocèse de Toulouse. Vous continuez tout comme Jean-Baptiste, votre année de synthèse vocationnelle, et vous êtes nommé au service de l'ensemble paroissial du Christ-Roi. Alors, on va essayer de réussir ce plateau de Vivante Église autour du diaconat permanent et en vue du presbytérat. Mais tout de suite, je vous invite à découvrir un petit peu le parcours, l'appel vocationnel, le témoignage de Jean-Baptiste Oneda. Comment avez-vous reçu, permettez-moi, ça sera la première question de ce plateau, cet appel?
Oui, merci Nathalie. Alors effectivement, cet appel, je l'ai reçu dans ma vie, la vie que je menais durant mes études. C'est une question que je me suis posée au tout début de mes études, en me disant, en étant persuadé que tous les jeunes hommes catholiques se posaient la question de devenir prêtre. J'ai appris par la suite que c'était pas forcément le cas. Mais quoi qu'il en soit, c'était une question qui me taraudait. J'ai grandi à la campagne, dans une famille catholique de tradition. On allait à la messe quelques fois dans l'année, pour les grandes fêtes, comme on dit. Et vers 15 ans, effectivement, j'ai commencé à vivre ma foi de manière plus personnelle. Et j'ai commencé à creuser cette relation avec le Seigneur. Et de fait, quand je suis arrivé dans mes études, j'ai dit au Seigneur dans la prière, ben, je lui ai dit, si tu veux que je sois prêtre, appelle-moi. Si tu as besoin de moi, tout en espérant qu'il ne m'appelle pas. et c'est au cours de mes années, donc, en creusant cette relation avec le Seigneur, c'est durant l'été de ma quatrième année où j'ai vraiment ressenti cet appel pendant l'adoration, au cours d'une retraite devant le Saint-Sacrement, où j'ai senti vraiment que le Seigneur me disait, comme une voix qui résonnait, en me disant « Je veux que tu sois prêtre ». Alors j'ai éprouvé cet appel avec mon père spirituel, parce que c'est tellement nouveau qu'on se dit, que je me suis dit « Mais je dois me faire des films ». En fait, la question était tellement présente que je me suis dit « Mais en fait, tu te fais des films ». Bon, et en éprouvant ça, mon père spirituel m'a aidé, m'a dit « Oui, c'est manifestement un appel du Seigneur ». Et maintenant, il faut l'éprouver dans le temps du séminaire. Et donc, on a ces longues années de formation pour pour parler de tout ça.
Alors, on entend bien que dans cet appel vocationnel, donc diacre aujourd'hui, en vue du sacerdoce, Jean-Baptiste, il y a eu une période de 4 années de cheminement, de questionnement. Vous avez hésité, je crois, parce que j'ai cherché un peu quelques informations vous concernant. Vous avez pensé à la question et à la vocation du mariage.
Et oui, parce qu'en fait, je suis on est une famille nombreuse, dans la génération de mes cousins, je suis le dernier. Et de fait, voir tous les enfants de nos cousins, leur apprendre à marcher, leur apprendre à nager, c'est quelque chose de très beau. Alors, on n'a pas les embêtements qui vont avec, mais de fait, c'était très beau. Et alors, je me disais, j'étais tiraillé entre le mariage et la prêtrise. Bon, et après, bien, le Seigneur est plus fort que tout, donc on ne peut pas résister à cet appel.
Alors, merci. Et pour vous, Irénée, comment s'est passé un peu ce parcours vocationnel, puisque vous êtes diacre aujourd'hui en vue du sacerdoce? Le Seigneur, comment vous a-t-il appelé et comment avez-vous répondu?
Eh bien, merci Nathalie. En prenant du recul, je réalise que j'ai grandi dans un milieu très porteur pour ma foi, au Puy-en-Velay, et c'est au rythme des camps scouts, de la liturgie. J'étais aussi maîtrisien à la cathédrale, que j'ai passé mon enfance dans une famille. Mes parents m'ont élevé avec mes frères dans la foi. Et pour autant, je ne me suis jamais posé la question de la vocation. Et c'est après le bac que j'ai, dans une période avec des enjeux, préparation de concours, je me souviens avoir eu une image qui m'est apparue de moi comme prêtre et ça m'a beaucoup ému quand j'ai vécu ce moment. Et en même temps, j'ai laissé ça de côté parce que je craignais que ce soit une tentation de fuir la préparation des concours, une manière de laisser ça de côté. Et donc, c'est ce que j'ai fait pendant quelques années. Puis je suis arrivé à Toulouse, dans une école d'agronomie, et j'ai réalisé que j'avais toujours le désir de creuser ma foi. Je voulais me mettre au service des autres, savoir ce que Dieu voulait pour moi, m'engager. J'ai fait beaucoup de choses. Et c'est au cours d'un week-end avec des étudiants que j'ai rencontré un prêtre qui, sans le vouloir, je crois, était un clin d'œil pour moi, pour me rappeler que c'était le moment de se poser la question du séminaire. Et donc, j'ai été rappelé à cet appel une deuxième fois. Voilà.
Vous avez fait aussi, je crois, et ça a été aussi pendant votre parcours, vous avez été une année dans les quartiers nord de Marseille avec l'association et la fraternité Bernadette, une sainte d'ailleurs qui, dans votre parcours, semble-t-il, est importante et vous marque.
Oui, c'était une année au service des habitants des quartiers nord, pour faire du soutien scolaire, de l'animation de rue, être une présence gratuite et une écoute. Et tout ça à l'école de Sainte-Bernadette, que je connaissais de nom comme tout le monde, mais j'ai senti combien la vie qu'elle avait menée était encore très actuelle pour nous, et surtout au contact des plus pauvres, elle qui a été choisie alors qu'elle était la plus petite dans le groupe. Et Dieu a montré aux yeux de tous que c'est les plus petits qu'il choisit et qu'ils ont quelque chose de très précieux en nous qui nous enseigne. Voilà.
Alors on va vous retrouver, je vous garde, Jean-Baptiste et Irénée, vous êtes aussi les futurs prêtres, on ne donne pas de date, vous ne connaissez pas la date, mais vous êtes les futurs prêtres pour le diocèse de Toulouse. Alors Eric, vous êtes, et vous avez répondu oui, vous avez eu la formation, mais on posera les questions un peu plus tard, vous avez répondu à cet appel du diaconat permanent. Ça s'est passé comment dans votre parcours d'homme, très simplement Eric? Et merci.
Alors, tout simplement, c'est à travers tous mes engagements différents, que ce soit sur le plan associatif, sur le plan des fraternités ou en paroisse, que j'ai découvert un peu cette facette du diaconat permanent, qui souvent se réalise par un appel du prêtre de la paroisse ou du service diocésain. Pour moi, j'ai fait un peu le chemin inverse, c'est-à-dire que j'ai souhaité proposer de suivre ce cheminement et qui m'a conduit d'abord à discerner avec mon accompagnateur spirituel de l'époque pendant quelques années pour voir ce sens que ça allait donner à ma vie, comment j'allais suivre ce chemin d'engagement qui était quand même assez différent puisqu'il serait définitif après. Et après un long cheminement...
Quand vous dites un long cheminement, il a duré combien de temps ce cheminement, Eric?
À peu près 5 ans, avant d'intégrer la formation et les 2 ans de discernement que propose le diocèse de Toulouse.
Donc c'est sérieux, on ne devient pas diacre du jour au lendemain,
non.
En quelques mois.
Non. Ouais.
Alors vous avez tous parlé, que ce soit Irénée, Jean-Baptiste et vous-même, d'un accompagnateur spirituel, c'est important, dans le cheminement en vue d'un juste et bon discernement, Eric.
Oui, tout à fait. Pour moi, je pense que c'est... Alors pour ce cheminement, c'est très important, mais je pense que pour toute personne, pour tout chrétien qui... D'abord, un accompagnateur spirituel, c'est aussi quelque chose d'important qui permet d'avoir du soutien, des réponses et des conseils.
Alors, diacre, oui, vous n'avez pas pensé aller jusqu'au bout. Permettez-moi, je suis dans l'obligation de vous poser la question. Diacre permanent, le sacerdoce, vous ne voulez pas aller plus loin?
Non, c'est une partie...
C'est un non catégorique.
Voilà.
Ah oui. Pour quelle raison?
Parce que je me sentais plus à l'aise avec le diaconat permanent qui correspondait beaucoup plus à ma spiritualité, puis à ma façon d'intervenir, de travailler, d'être au service de l'autre.
Alors c'est quoi pour vous, par définition, pour les auditeurs qui vous écoutent, qui vous découvrent tous les trois, et qui vous découvrent vous en tant que diacre permanent, s'il fallait donner vraiment une définition de votre mission de diacre?
Alors la mission de diacre pour moi, le diacre permanent, c'est au service de ses frères. Voilà. Être au service de ses frères, être en tenue de service.
Donc il est toujours prêt.
Oui.
Ouais, donc tenue de service, être sur le terrain.
Voilà, ouais, être sur le terrain.
Oui, au contact direct.
Au contact direct des gens et de ses frères et de ses sœurs.
Alors, Irénée et Jean-Baptiste, diacre en vue du presbytérat, parce que ça, c'est vraiment l'intitulé. Ce temps de diaconat, pour vous, Jean-Baptiste, vous le vivez comment au quotidien pour que l'auditeur qui découvre, vous découvre aussi dans ce nouveau ministère, nouveau statut, c'est quoi au quotidien, vous qui êtes nommé depuis peu donc, au service de la cathédrale Saint-Étienne à Toulouse? Ça consiste en quoi?
Alors déjà, j'aimerais préciser que le diaconat permanent et le diaconat, disons, transitoire en vue du presbytérat est en fait exactement le même. On a reçu la même ordination et on est diacre de la même manière, si ce n'est que nous allons devenir prêtres, nous l'espérons. Mais de fait, je pense que ma mission au sein des paroisses, cathédrales, elle est pratiquement la même que celle d'un prêtre, c'est-à-dire que j'ai pas mal de missions sur la cathédrale, l'accompagnement des catéchumènes, l'accompagnement de la maîtrise de la cathédrale, de groupes scouts, etc. Donc toutes ces missions qui me sont confiées par mon curé et l'abbé d'Artigues. Et de fait, c'est simplement exercer de la charité pastorale vis-à-vis des gens qui nous sont confiés. Être attentif au peuple, à la portion du peuple qui nous est confiée par notre curé. Voilà, tout simplement. Et ensuite, matériellement, ça se manifeste aussi dans la liturgie, dans le service de la messe, voilà, où en fait on aide, on assiste notre curé et on sert l'évêque.
Alors vous, Irénée, vous êtes au service et vous avez été nommé au service d'une des églises du diocèse de Toulouse, c'est l'église du Christ-Roi. Quelles sont un peu, je dirais, vos missions, vos affectations, vos responsabilités?
Sur cet ensemble paroissial, mon curé compte sur moi pour être une présence auprès des jeunes. Il y a beaucoup d'écoles dans l'enseignement catholique, dans cet ensemble paroissial. Il y a notamment l'ensemble scolaire Saint-Joseph, où je me rends plusieurs fois par semaine. Il y a aussi, comme dans beaucoup de paroisses, une aumônerie, un patronage qui se développe. Donc ça représente une certaine part de mon ministère. Et avec l'ordination, évidemment, j'ai trouvé une nouvelle place dans la liturgie comme diacre. Et c'est une des premières choses qui me marque, moi, dans ces premières semaines de diaconat. Et je dirais même, s'il n'y avait pas ces moments de liturgie, peut-être que je serais tenté de me demander, mais qu'est-ce qui a changé ? C'est un échange que j'ai eu avec personne que je travaille avec, à Saint-Joseph, qui me demandait, alors qu'est-ce que ça a changé pour toi, l'ordination ? Et ben, j'ai réagi en lui disant, mais je suis toujours le même. Et en même temps, on est tombé d'accord pour que, eh ben oui, avec l'ordination, la grâce me travaille d'une manière nouvelle maintenant, et le Christ m'accompagne là où je suis, d'une manière toute particulière. Voilà. Mais voilà.
Éric, je voyais un petit peu dire oui, vous rejoignez Irénée.
Oui, tout à fait.
Oui, tout à fait. Vous sentez que vous avez eu... Est-ce qu'on peut parler d'une onction le jour de l'ordination dans ce diaconat que vous avez reçu c'est de l'ordre de la grâce. Vous êtes porté quelque part. Vous sentez que vous êtes tous les trois, depuis le jour de votre ordination, porté par quelque chose de plus grand que vous. Éric, Jean-Baptiste, vous pouvez tous les trois réagir.
Une onction de l'Esprit-Saint, en tout cas. Avant de, pour Irénée et moi, d'avoir une onction sur les mains. Mais de fait, oui, la grâce travaille de manière admirable. Je trouve, moi, le Seigneur, dans mon âme, je trouve, a fait des pas de géant. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui me semblaient tellement difficiles avant et qui me semblent beaucoup plus aisées maintenant.
Vous pensez à quoi quand vous dites plus difficile avant?
Je pense notamment à la liturgie des heures, où j'avais peur de me dire, mais je ne vais pas réussir à penser à tous mes offices. Je voyais que j'en oubliais. Et puis en fait, comme me disait un de mes amis l'année dernière, diacre, qui est prêtre maintenant du diocèse de Nîmes, me disait, mais en fait, la question ne se pose pas. Je l'ai promis, je le fais. Et de fait, en fait, on a maintenant, ça devient naturel. On dit, ah, j'ai oublié ça. Et bien alors, je le fais dès que possible. J'ai oublié les vêpres, j'ai oublié le milieu du jour. Je le fais dès que possible.
Alors, il y a un changement depuis le jour de il y a avant l'ordination. Vous le sentez bien là, tous les trois. Et après, le jour de l'ordination, vous avez parlé de liturgie. Il y a des changements pour vous trois. Est-ce que vous avez été appelé à prêcher l'homélie?
Oui,
c'est les premiers pas aussi d'un jeune diacre ordonné. Alors, racontez-nous vos premières prêches, si certains d'entre vous ont commencé peut-être.
Ça ne fait qu'un mois, alors je ne vais pas faire des grands discours sur l'homélie. Je ne serai pas le mieux placé, mais...
Vous avez commencé, oui. Voilà, alors...
Mais je suis touché, moi, par la bienveillance, voilà, des paroissiens qui sont, je pense, touchés de voir... Un jeune qui prêche, qui a fait le pas, voilà.
Qui a fait le pas, ouais. L'exercice est difficile, entre nous, là, Éric.
Un petit peu.
Détendez-vous, pour vous, un petit peu.
Oui. Ça reste un moment assez... disons que on est face à un auditoire qui est relativement très bienveillant, comme vient de le signaler Irénée. Mais ça reste un moment assez particulier parce qu'il faut quand même réussir à faire passer le message de l'Évangile, mais tout en le rattachant au contexte actuel de notre société ou de l'actualité. Donc c'est quelque chose qui se prépare des fois je suis en admiration devant un peu les prêtres qui arrivent au pied levé à prêcher ou à faire passer ce message de la bonne nouvelle, quoi.
Jean-Baptiste, hein ?
Oui, c'est toujours impressionnant, l'homélie, toutes les premières en tout cas. J'y pensais même à la cathédrale, j'ai encore jamais prêché à la cathédrale le dimanche. Parce que je dois avouer que j'ai dit à mon curé, j'ai dit écoutez...
On veut les confessions.
Je dois avouer que là, c'est un peu impressionnant quand vous avez 800 personnes le dimanche et que vous êtes sur la, comme ça, là, sur, à l'embon et que vous commencez à enseigner. C'est sûr que ça fait un peu bizarre. Mais les gens, en fait, sont très bienveillants. Il suffit de préparer avec sérieux, je pense, ne pas prendre ces choses-là à la légère. Mais le Seigneur est quand même là aussi et nous donne l'aisance nécessaire pour enseigner le peuple de Dieu et lui donner ce dont il a besoin.
Alors, je vous remercie à tous les trois pour cette première partie de ce Vivante Église, Eric, Irénée et Jean-Baptiste. Et on vous retrouve, hein, ne quittez pas les studios de la radio, on vous retrouve, ne vous échappez pas, hein, pas de fuite, on vous retrouve tout à l'heure après ce temps de pause musicale. À tout de suite.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo.
Vivante Église, Nathalie Cardon.
Retour dans ce plateau de Vivante Église consacré à la question, non, à la vocation du diacre, hein, diacre permanent, diacre transitoire. Ici en plateau, trois intervenants, Éric Carboni qui est diacre permanent, à vos côtés Irénée Romanoff, diacre en vue du presbytérat, et vous serez dans quelques semaines, voire quelques mois, hein, vous ne connaissez pas la date ordonnée prêtre, si tout va bien, hein, dans votre parcours pour le diocèse de Toulouse. Il en est de même pour vous, Jean-Baptiste Oneda, dans quelques semaines, voire quelques mois, ou alors on ne connaît pas la date. Hein, irez-vous jusqu'au bout? Nous vous encourageons, Jean-Baptiste, pour aller jusqu'au bout.
On a été ordonné pour ça.
Hein. Vous avez été ordonné, préparé aussi. Hein. On n'a pas parlé de la formation, mais il y a un passage au séminaire. C'est sérieux, il y a du discernement. Et puis il y a du temps aussi pour discerner si on va jusqu'au bout ou non. Une question très simple que peut se poser aussi, nous l'avons évoqué pendant cette plage musicale, un diacre, Irénée, Jean-Baptiste, vous n'êtes pas encore prêtre, vous êtes diacre, on vous appelle comment concrètement? Il faut vous appeler père, abbé, il faut vous appeler très simplement frère Jean-Baptiste, frère Irénée, abbé Irénée, abbé Jean-Baptiste?
Alors... Effectivement, beaucoup de gens viennent me voir un peu embêtés à la sortie de la messe. Ils me disent, on voudrait vous poser une question. Est-ce qu'on doit vous tutoyer ou vous voyez? Et comment est-ce qu'on doit vous appeler? Est-ce qu'on doit vous appeler mon père, Père Irénée? Alors, je dis Père Irénée, non, c'est plutôt les prêtres. Mais vous pouvez m'appeler Irénée par mon prénom. Et sinon, vous pouvez aussi m'appeler Monsieur l'Abbé. C'est le titre que nous donne le diocèse. Quand il s'adresse à nous dans les courriers, vous pouvez, vous avez le choix.
Voilà.
Faites comme vous êtes.
Vous avez parlé de vouement ou de tutoiement. Donc on vous pose directement la question à la fin de la messe. Mm-hmm. Que répondez-vous? Ça dépend, j'imagine, peut-être des générations que vous rencontrez. Vous acceptez le tutoiement facilement?
Les jeunes, beaucoup préfèrent le tutoiement. Moi, je laisse la possibilité aux gens de faire comme ils se sentent à l'aise de me tutoyer ou de me vouvoyer.
D'accord. Oui. Alors merci, monsieur l'abbé Irénée. Jean-Baptiste, monsieur l'abbé Jean-Baptiste.
Concernant le vouvoiement.
Le vouvoiement.
Tutoiement. Oui, alors il faut être relativement libre. En fait, de tout ça, ça reste des étiquettes et des formalités. Mais voilà, de fait, c'est vrai que quand on travaille avec les gens, moi, je préfère vouvoyer. Et de fait, je pense qu'il y a une grande délicatesse en général de la part des gens de voir où on est à l'aise. Si on est à l'aise dans le tutoiement ou le vouvoiement. Moi, naturellement, je vous vois assez facilement et j'aime bien qu'on me vouvoie après.
Pour quelle raison? Ça permet pour vous peut-être de garder la juste et bonne distance?
Ça permet, je pense, de garder une bonne distance. Et après, c'est une habitude que j'avais pris assez facilement à la fac de droit, où en fait, on se voyait tous. On se voyait entre les promos quand on se connaissait pas, on se voyait facilement. Voilà, je trouve que c'est une bonne chose et puis en fait d'éviter une certaine familiarité aussi. Et voilà, on est éviter une certaine familiarité, oui, peut-être aussi.
Donc une juste distance.
Hein. Voilà.
On parle pas de protection, mais la bonne distance qu'il faut.
Voilà, on est c'est ça, oui. Une bonne distance. Puis aussi la dimension de notre mission à nous, voilà, sans prétention hein, non plus, mais voilà, notre mission nous appelle à conduire le peuple de Dieu, la partie du peuple de Dieu qui nous est confiée. Voilà, ça ne viendrait pas forcément à l'esprit d'aller tutoyer l'archevêque. Donc, pourquoi on tutoierait comme ça?
Puisque vous parlez de votre archevêque, vous pouvez saluer votre archevêque qui est Monseigneur de Quérimel. Hein. Voilà, on le salue. C'est lui qui vous a ordonné pour le diocèse de Toulouse.
On le remercie beaucoup.
Voilà, puisqu'on parlait hors antenne pendant cette pause musicale aussi de vos missions respectives, peut-être des charismes aussi, mais de la paternité. L'évêque, l'archevêque dans le diocèse exerce sur ses ces futurs prêtres aussi, diacres, cette paternité, elle est importante, cette paternité. Dites-moi, Eric, monsieur l'abbé Irénée, monsieur l'abbé Jean-Baptiste, la paternité de votre archevêque, monseigneur de Quérimel, par exemple.
Comme séminariste, nous avions l'habitude de voir monseigneur de Quérimel pour différentes occasions. Deux fois par an, aller manger entre séminaristes avec lui. Et puis, le rencontrer personnellement aussi, une fois par an. Mais je trouve que c'est important, puisque le jour de l'ordination, on place nos mains entre celles de l'évêque, et bien de créer tôt cette proximité et cette confiance, voilà, avec celui qui va prendre soin de nous.
Le moment de c'est aussi de placer nos mains, c'est la promesse de l'obéissance qu'on lui fait, ainsi qu'à ses successeurs. Donc, mais dans ce moment-là, il y a une grande bienveillance qui s'installe.
Oui, l'archevêque, effectivement, c'est notre père. Hein. C'est pas simplement notre N+2. Si on devait en parler en termes d'entreprise, mais c'est aussi, oui, vraiment notre père qui prend soin de nous et qui est attentif à notre bien-être, à ce qu'on soit à l'aise dans nos missions, j'imagine, on peut l'espérer, oui. Enfin, en tout cas, je le crois tout à fait. Monseigneur Quérimel est vraiment un bon évêque de ce point de vue-là. Et moi, je le remercie beaucoup parce qu'il accompagne de manière admirable.
Alors, l'archevêque est lui-même et exerce cette paternité pour ses prêtres et son diocèse. Il en sera de même aussi, permettez-moi, messieurs l'abbé Jean-Baptiste Irénée, de même pour vous aussi. Vous allez exercer aussi, vous commencez à exercer cette paternité sur les brebis qui vous sont confiées. C'est une responsabilité.
Oui.
Vous n'avez pas peur parfois?
Je crois que la grâce sera donnée pour vivre ça, parce que...
On apprend à devenir père, hein,
bien,
dans cette paternité spirituelle, hein, bien sûr.
C'est une paternité qui nous dépasse, en tout cas, celle qu'exerce le prêtre. C'est pas avec nos qualités, seulement nos qualités et avec notre formation qu'on arriverait à faire ce que le Christ attend de nous. Voilà. Mais je dirais, pour compléter la question de la paternité, je crois que c'est saint Augustin qui disait, ben, voilà, on est prêtre pour vous, mais aussi chrétien avec vous. Père, mais toujours aussi frère dans la foi. Ces deux dimensions qui sont à tenir ensemble, je crois, pour avoir un juste exercice du ministère.
Deux mots un peu sur la formation que vous avez suivie, tous les trois. Éric.
Alors, pour ma part, j'ai suivi la formation qui est proposée par le diocèse de Toulouse, c'est-à-dire 2 années de discernement à raison d'un samedi par mois, alors de octobre à mai, et puis après un premier cycle de 3 années de théologie à raison d'un week-end, de octobre à mai, et après 3 années de pastoral.
Donc il y a du temps, il y a de la préparation, c'est sérieux, voilà.
Oui.
On a le temps quand même de poser le discernement.
Hein. Alors le discernement, il se pose déjà pendant les 2 premières années, et puis après il se pose jusqu'au moment de l'appel de l'Église.
Vous n'avez jamais douté? Vous n'êtes jamais revenu sur cet appel?
Non.
Non, jamais.
Alors j'ai eu peut-être des petits moments de doute.
D'hésitation ou de doute.
Mais qui ont à chaque fois, que j'ai pu amener avec mon accompagnateur spirituel, ou les formateurs, ou même l'équipe d'encadrement de la formation, et qui m'ont toujours amené les réponses que... voilà.
Alors, vous êtes connus, messieurs l'abbé, Jean-Baptiste et Irénée au séminaire, vous êtes compagnons un peu, puisque si tout va bien dans votre trajectoire et cet appel, et si vous allez jusqu'au bout, il vous est permis, ordonné depuis peu, hein, diacre, question, est-ce que vous êtes libre jusqu'au bout de ne pas... accéder au sacerdoce, Jean-Baptiste et Irénée.
Oui, je dirais que, en théorie, tant que l'archevêque n'a pas posé ses mains sur notre tête et prononcé les paroles consécratoires, on n'est pas prêtre, ça c'est sûr. Et en même temps, en fait, l'essence, même si on vit le même diaconat, notre diaconat est en vue de l'ordination presbytérale, en vue de devenir prêtre. Donc en théorie, oui, et en même temps, J'ai donné ma vie pour devenir prêtre, même si je suis très heureux en tant que diacre, mais j'ai donné ma vie pour devenir prêtre, oui.
Alors c'est quoi pour vous, le prêtre, puisque vous dites j'ai donné ma vie, et vous le serez certainement dans quelques mois.
Qu'est-ce que c'est que le prêtre? C'est une vaste question, mais...
C'est la grande question, puisque c'est...
C'est ça, je pense...
C'est votre vie, ça sera votre vie.
Je pense que le prêtre, je reprendrai volontiers une parole de Jésus qui reprend lui-même un prophète. « L'amour de ta maison fait mon tourment. » Et je pense qu'être prêtre, c'est se fondre dans cet élan d'amour, dans ce mouvement d'amour du Christ envers le peuple de Dieu. C'est un profond désir pour le peuple de Dieu, de la sainteté. Le prêtre, à la différence de tous les autres sacrements, est ordonné en vue de la sainteté des fidèles. Voilà, on n'est pas prêtre pour soi, on est prêtre pour les autres.
Et pour vous-même, monsieur l'abbé Irénée, c'est quoi pour vous? Puisque si tout va bien dans ce parcours, hein, ordonné diacre, transitoire, vous serez certainement dans quelques mois, vous ne connaissez pas la date, hein, tous les deux, vous attendez aussi l'appel de monseigneur de Quérimel qui vous appellera.
C'est, ça.
C'est quoi pour vous, le prêtre? Et qu'est-ce qu'un prêtre?
Moi, j'ai trouvé très beau ce que disait Jean-Baptiste, oui. Le prêtre, l'homme qui est au service des baptisés. Et c'est vrai que, en collaboration avec l'évêque, oui, le prêtre, c'est l'homme qui va être un peu une présence qui va permettre au Christ de continuer à guérir dans la confession, à nourrir les fidèles dans l'Eucharistie, à pouvoir les faire renaître dans le baptême. Il permet au Christ de toucher encore les gens aujourd'hui, même si le Christ, la grâce ne passe pas que par le prêtre, que par les sacrements. Il se donne à tous, mais pour son Église, voilà, le Seigneur voulait des prêtres pour continuer son œuvre aussi. Voilà.
Et l'Église a besoin de prêtres, hein, donc je vous remercie tous les trois, hein, parce que vous avez jusqu'à maintenant eu le courage de vous laisser former, voilà, de vous laisser aussi accompagner. Et le oui que de vous donner, c'est le oui pour le peuple. Hein. Donc il y a dans cette vocation aujourd'hui qui est représentée dans ce plateau de Vivante Église, de diacre, cette vocation aussi de serviteur, d'humble serviteur dans la vigne du Seigneur. Et quels sont les sacrements que vous pouvez célébrer, vous, diacre permanent?
Alors en tant que diacre permanent... On peut célébrer le sacrement du baptême, le sacrement du mariage et les obsèques.
Et vous avez commencé à célébrer un de ces sacrements, Eric ?
Non, pas pour l'instant. Je vais en priorité déjà accompagner des prêtres pour me familiariser avec ces moments qui sont importants pour ces familles qui viennent pour la première fois amener... leur enfant pour le faire rentrer dans la famille de l'Église, pour un couple qui va s'unir, et malheureusement aussi pour des gens qui accompagnent leurs proches pour un dernier adieu.
Oui, donc il y a les débuts, hein, pas après pas. Donc
voilà.
Merci Eric Carboni aussi de votre intervention dans ce plateau. Merci d'avoir dit oui. Hein, voilà. Et il en est de même aussi pour vous, messieurs l'abbé, Irénée, et Jean-Baptiste, alors prochainement, vous ne connaissez pas la date, vous attendez l'appel décisif, voilà, de Monseigneur de Quérimel que vous pouvez saluer. Merci aussi de votre oui. Alors aujourd'hui, vous attendez, et dans le futur, de célébrer le sacrement de confession,
c'est ça,
et le sacrement de l'Eucharistie, la Sainte Messe.
Mm-hmm.
C'est les deux sacrements que vous ne pouvez à ce jour célébrer.
Oui, et le sacrement des malades aussi qu'on ne peut pas célébrer. Mais c'est les sacrements qu'on attend, qu'on attend de pouvoir célébrer.
Vous attendez tous les deux, dans le futur, ce moment où vous allez célébrer votre première messe?
Ce sera un moment qu'on attend depuis longtemps, enfin, extrêmement fort. Et en même temps, ce ne sera qu'un début. Voilà. Nous ne sommes pas... Enfin, l'ordination, ce n'est pas un aboutissement. Voilà. C'est le début d'une nouvelle vie de service.
Et comme tous les baptisés, c'est un éternel recommencement. Tous les jours, nous commençons et nous voulons devenir saints tous les jours.
Merci à tous les trois, Monsieur l'abbé Jean-Baptiste Oneda. Hein, voilà, donc pour les auditeurs Merci. Qui ne sauraient pas comment vous appeler aujourd'hui, on a bien découvert que l'appellation est tout simplement Monsieur l'abbé. Et puis vous portez, on n'a pas parlé de la tenue, mais nos deux abbés ici en plateau portent le col romain.
Hein, c'est ça.
Voilà, que vous portez depuis le séminaire.
Surtout depuis l'ordination, même si déjà au séminaire, oui, il y a certains jours, c'est approprié, oui.
Alors merci Monsieur l'abbé Irénée Romanoff et on vous souhaite une belle mission sur l'ensemble paroissial de l'église du Christ roi et pour vous-même à la cathédrale Monsieur l'abbé Jean-Baptiste et Éric Carboni, nous vous souhaitons aussi un beau ministère de diacre permanent sur l'ensemble paroissial Saint-Loup-Camas
au Carville Saint-Loup-Camas
voilà, donc bonne émission merci à tous les trois et à très bientôt, au revoir.
Merci beaucoup.